إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، chers auditeurs, on continue ce soir la lecture et l'explication du livre intitulé Le mérite de l'islam, écrit par l'éminent cheikh, l'imam Mohammed ibn Sulayman al-Tamimi rahimahullah ta'ala. Nous avons vu hier le premier chapitre de ce livre dans lequel l'auteur rahimahullah ta'ala nous a exposé un certain nombre de textes démontrant le mérite et la supériorité de cette religion. Et avant de passer au chapitre suivant, j'aimerais simplement revenir sur la traduction d'un hadith que l'on a mentionné hier et qui est le hadith rapporté par l'imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala d'après Abdullah ibn Umar radiyallahu ta'ala anhumah, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donné l'exemple des musulmans et des gens des deux livres en les comparant à un homme qui emploie des ouvriers. Et j'ai mentionné hier que celui-ci a dit au premier groupe « Qui travaille pour moi du matin jusqu'à la mi-journée pour un qirat ?» Et la traduction correcte de cette phrase est « Qui travaille pour moi de l'aube jusqu'à la mi-journée ?» De l'aube jusqu'à la mi-journée, non pas du matin jusqu'à la mi-journée. Je tenais donc à corriger cette traduction afin d'être plus précis et plus proche du sens du hadith en arabe. Donc le chapitre que l'on va voir aujourd'hui est intitulé « Chapitre de l'obligation d'entrer en islam ». Dans ce chapitre, l'auteur, rahimahullah ta'ala, va nous exposer le jugement de l'islam, le jugement de cette religion. Et il va nous démontrer qu'il est obligatoire d'entrer dans cette religion, de s'y conformer, de se conformer à ses législations pour être agréé d'Allah subhanahu wa ta'ala et pour obtenir le salut ici-bas et dans l'au-delà. Et lorsqu'on parle d'islam ici, on parle de la religion avec laquelle a été envoyé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il est donc obligatoire pour l'ensemble de l'humanité d'entrer dans cette religion et de s'y conformer, comme le démontrent les textes que l'on va lire ensemble et que l'auteur, rahimahullah ta'ala, a mentionné ici. Il a donc commencé par mentionner la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala au verset 85 de surat Ali Imran, lorsqu'il a dit « وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ » Et quiconque désire une religion autre que l'islam, alors elle ne sera pas acceptée de lui, et il sera dans l'au-delà parmi les perdants. On voit donc très clairement dans ce verset que celui qui désire une religion autre que l'islam, quelle qu'elle soit, alors il est sous la menace de la perdition. Car aucune autre religion que l'islam ne peut être acceptée par Allah subhanahu wa ta'ala. Et le seul moyen d'être sauvé de la perdition est d'entrer dans cette noble religion qu'est l'islam. Donc ceux qui prétendent aujourd'hui être croyants, ceux qui disent qu'ils croient en Dieu et qu'ils adorent un Dieu unique, comme certains peuvent le prétendre parmi les gens du livre, mais qui refusent d'entrer en islam, alors ce sur quoi ils sont est rejeté et n'est pas accepté par Allah subhanahu wa ta'ala. Et ils sont sous la menace de la perdition dans l'au-delà. Car ils sont sur une religion qui a été abrogée, qu'il n'est plus permis de mettre en pratique depuis l'envoi de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc cette religion ne leur est d'aucun profit. La seule chose qui peut être profitable pour l'homme, c'est d'entrer dans la religion de l'islam. L'imam Muslim rahimahullah ta'ala rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Par celui qui détient l'âme de Muhammad en sa main, nul parmi cette communauté n'entend parler de moi, que ce soit un juif ou un chrétien, puis qui meurt sans avoir cru en ce avec quoi j'étais envoyé, sans faire partie des gens du feu. » C'est-à-dire que depuis l'envoi de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, toute personne qui entend parler de cette religion, toute personne à qui l'islam est parvenu, toute personne qui a entendu parler du messager d'Allah, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, puis qui meurt sans croire en lui, alors il fera partie des gens du feu de l'enfer. Dans un autre hadith authentique, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: si Moussa était vivant, Moussa alayhi salam, un des plus nobles des messagers qu'Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé aux gens sur terre. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: si Moussa était vivant, il n'aurait eu d'autre choix que de me suivre. Il n'aurait eu d'autre choix que de suivre Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et de mettre en pratique sa religion. Donc tout ceci nous prouve que la seule religion acceptée d'Allah subhanahu wa ta'ala est l'islam, et que c'est une obligation pour l'ensemble de l'humanité d'accepter cette religion. Et celui qui la refuse, alors il est sous la menace de la perdition dans l'au-delà. Ensuite, l'auteur, rahimahullah ta'ala, a mentionné un deuxième verset, qui est également un verset de sourate Ali Imran, et c'est le verset 19, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala a dit: Inna ad-dina 'inda Allahi l'islam. En vérité, la religion auprès d'Allah, c'est l'islam. C'est-à-dire, la seule religion acceptée d'Allah, c'est l'islam. Quant à toute autre religion, elle n'est pas acceptée auprès d'Allah. Toute religion, après la venue de l'islam, est rejetée par Allah subhanahu wa ta'ala. Car l'islam est la religion qu'Allah subhanahu wa ta'ala a ordonnée à l'ensemble de ses serviteurs. Allah subhanahu wa ta'ala leur a ordonné d'entrer en islam. Il a envoyé son messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam à l'ensemble de l'humanité. Il est donc obligatoire pour nous d'accepter cette religion, d'entrer dans cette religion et de la mettre en pratique par obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'est pas permis d'adopter une autre religion que l'islam. Et celui qui adopte une religion autre que l'islam, alors celle-ci ne sera pas acceptée de lui, car toute religion autre que l'islam est une religion fausse depuis la venue de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, l'auteur, rahimahullah ta'ala, a mentionné une partie du verset 153 de sourate Al-An'am, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala a dit: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. Et voilà mon chemin dans toute sa rectitude, dans toute sa droiture. Suivez-le donc et ne suivez pas les sentiers qui vous écartent de sa voie. Et voilà mon chemin dans toute sa rectitude. Le chemin dont il est question ici, c'est l'islam. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit: voilà mon chemin dans toute sa rectitude, dans toute sa droiture, voilà l'islam, qui est le chemin menant à Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est un chemin droit, sans aucune déviation et sans aucune tortuosité. Voici mon chemin dans toute sa rectitude. Suivez-le donc. Allah subhanahu wa ta'ala nous ordonne ici de suivre son chemin qui est l'islam. Et ceci implique nécessairement l'interdiction de suivre une autre religion que l'islam. Suivez mon chemin et ne suivez pas une autre religion que l'islam, et de la même manière ne suivez pas une autre sunna que la sunna de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc ce verset est une preuve claire de l'obligation d'entrer dans cette religion, car c'est cette religion qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a ordonné de suivre. Ensuite il dit subhanahu wa ta'ala: وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ. Et ne suivez pas les sentiers qui vous écartent de sa voie. Médite ici sur le fait que lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala a parlé de son chemin, il l'a mentionné au singulier, il a dit: et voilà mon chemin. Car il n'y a qu'un seul chemin qui mène à Allah subhanahu wa ta'ala, et c'est l'islam. Ensuite, quand il a mentionné les sentiers qui écartent de sa voie, il les a mentionnés au pluriel. Et ne suivez pas les sentiers qui vous écartent de sa voie. Car les sentiers qui écartent de la voie d'Allah subhanahu wa ta'ala, ils sont nombreux. Parmi eux, il y a la mécréance, le polythéisme, le suivi des passions, le suivi des désirs, le suivi des grands péchés, et ainsi de suite. Chaque personne qui s'égare du chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala a emprunté une voie qui est différente des autres. Chacun a une voie, chacun a un chemin, chacun a un madhhab, chacun a un groupe, et la fin, pour ceux qui s'écartent du chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est la perdition. Car celui qui suit un autre chemin que l'islam, il est voué à l'égarement, il est voué à la perdition. Quant à celui qui emprunte le droit chemin, la voie d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui est la voie qui mène au paradis, alors il obtiendra le salut bi'idhnillahi ta'ala.
Donc on a dans ce verset un ordre très clair et explicite de suivre la voie de l'islam et de délaisser tout ce qui s'y oppose parmi les religions, les sectes, les idéologies, les innovations et autres, car tout cela mène à la perdition. Ensuite, l'auteur, rahimahullah ta'ala, après avoir mentionné ce verset, a mentionné une parole de Mujahid, rahimahullah ta'ala, un des grands savants des musulmans et une référence dans le tafsir. L'élève de Abdullah ibn Abbas, radiyallahu ta'ala anhuma. Il a donc dit au sujet de ce verset, les sentiers sont les innovations et les ambiguïtés. Les sentiers qui écartent de la voie d'Allah, ce sont les innovations et les ambiguïtés. En effet, les partisans des innovations, ou ceux qui ont des ambiguïtés qui les écartent du droit chemin, ils encourent la perdition. Et ceux-là sont nombreux. Allah subhanahu wa ta'ala dit à leur sujet dans le Coran, kullu hizbin bima ladayhim farihun. Chaque parti se réjouissant de ce qu'il détient. Et ceci est le plus haut degré du châtiment. Le fait que l'homme soit sur le faux et qu'il se réjouisse d'être sur le faux, wal'iyadhu billah. Combien sont ceux qui s'opposent à la vérité, contredisent la vérité, suivent le faux, l'innovation, l'égarement et les péchés, et se réjouissent de leur situation et en sont fiers. Cela, le fait qu'ils se réjouissent d'être sur le faux, sera une cause pour qu'ils ne délaissent pas cet égarement. Car cet égarement leur plaît, ils en sont fiers, ils s'en réjouissent. Alors que celui qui suit le faux, mais ne s'en réjouit pas, il est tombé dedans par erreur, il pensait être sur la vérité, alors il se peut qu'il recherche la vérité, et qu'il soit guidé à la vérité, et qu'il l'accepte lorsque celle-ci lui sera présentée, car il s'est simplement trompé. Tandis que celui qui suit ses passions se cramponne au faux et en est fier et s'en réjouit, il se vante de ses égarements, il se vante de ses erreurs. Alors celui-ci, il est malheureusement peu probable qu'il revienne à la vérité. Et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous en préserver. Donc quoi qu'il en soit, la parole de Mujahid, rahimahullah ta'ala, nous démontre ici que parmi les sentiers, il y a les sentiers des innovations et les sentiers des ambiguïtés. Et comme on a dit, les sentiers, ils sont nombreux. Il y a les sentiers de la mécréance, du polythéisme, des grands péchés, et ainsi de suite. Ensuite, l'auteur, rahimahullah ta'ala, a mentionné le hadith de Aisha, radiyallahu ta'ala, anha, qui a dit: Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: Celui qui instaure dans notre ordre ce qui n'en fait pas partie, ceci sera rejeté. Et ce hadith est rapporté par les imams Al-Bukhari et Muslim rahimahumallahu ta'ala. Et dans une autre narration rapportée par Muslim rahimahullah, celui qui fait une œuvre que nous n'avons pas ordonnée, celle-ci sera rejetée. Donc ce hadith est une preuve que toute chose nouvellement instaurée en religion, elle n'est pas acceptée par Allah subhanahu wa ta'ala, mais au contraire, elle est rejetée. Même si les gens la jugent convenable, même si les gens pensent que c'est un moyen de se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala, cette chose est fausse et rejetée car, comme on l'a vu hier, la religion est complète. Allah subhanahu wa ta'ala l'a complétée, l'a parachevée. Il a dit subhanahu wa ta'ala, Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Aujourd'hui, j'ai complété pour vous votre religion. Il n'est donc pas permis d'ajouter des choses ou d'instaurer des nouvelles choses en islam. Car la religion est limitée au texte du Coran et de la Sunna. Et les innovations ne font pas partie de la religion, elles ne font pas partie de l'islam. Même si leurs auteurs pensent, en les commettant, se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Même s'ils pensent, en les commettant, obtenir une récompense de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Même s'ils jugent cet acte ou cette parole comme convenable. En réalité, ceci ne les rapproche pas d'Allah. Et ils n'ont aucune récompense pour cela. Au contraire, ces œuvres-là sont rejetées. Ils sont dans le péché. Et celles-ci ne font que les éloigner d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car la religion est complète. Et il n'y a pas de bonne innovation en islam. Et celui qui prétend qu'il y a une bonne innovation en islam, c'est comme s'il prétendait que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'a pas transmis entièrement la religion. Car Allah subhanahu wa ta'ala nous dit « Al-yawma akmaltu lakum dinakum »« Aujourd'hui, j'ai complété pour vous votre religion. » Donc celui qui vient avec une chose nouvelle et qui prétend que celle-ci est bonne, alors c'est comme s'il sous-entend que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'a pas transmis cette chose. Car Allah a complété la religion. Il ne l'a pas achevée. Donc ce hadith, c'est une preuve de l'obligation d'entrer en islam, car il nous démontre que les choses nouvellement instaurées en religion, elles sont rejetées et interdites. Par conséquent, ceci nous indique que tout ce qui fait partie de la religion de l'islam, est accepté et ordonné. Il est donc
obligatoire de se conformer à cette religion, car seul ce qui est conforme à cette religion ne peut être accepté par Allah subhanahu wa ta'ala. Il est donc obligatoire d'entrer dans la religion de l'islam pour que ses œuvres soient acceptées. Ensuite, l'auteur rahimahullah ta'ala a dit, Al-Bukhari rapporte, d'après Abu Huraira, radiyallahu ta'ala anhu, que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, toute ma communauté entrera au paradis, sauf celui qui refuse. Ils dirent, et qui refuse? Ils se sont étonnés. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur annonce cette bonne nouvelle, toute ma communauté entrera au paradis. Ceci est une excellente nouvelle pour les gens de l'islam. Puis il dit, sauf celui qui refuse. Il n'y a pas de doute que ceci attire notre attention. Ils dirent alors, et qui refuse? Qui pourrait refuser d'entrer au paradis dans lequel il y a ce qu'aucun œil n'a vu, ce qu'aucune oreille n'a entendu et ce que le cœur d'un homme ne peut s'imaginer? Ce paradis dans lequel il y a des bienfaits éternels. Ce paradis dans lequel il y a le bonheur éternel. Qui pourrait refuser d'y entrer? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam répondit, celui qui m'obéit, celui qui suit ma religion, celui qui suit ma sunna, entrera au paradis. Et celui qui me désobéit a certes refusé. Celui qui me désobéit, qui ne suit pas ma religion, qui ne suit pas ma sunna, il a alors certes refusé d'entrer au paradis. Donc ce hadith, c'est un encouragement clair à entrer dans la religion de l'islam pour entrer au paradis. Celui qui souhaite obtenir le paradis, celui qui souhaite connaître le bonheur éternel, alors il est obligatoire pour lui d'entrer en islam. Car pour entrer au paradis, il est obligatoire d'entrer en islam. Dans un autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « N'entrera au paradis qu'une âme muslima, une âme soumise, une âme qui s'est soumise à la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui a suivi le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Quant à celui qui suit une autre religion, qui ne veut pas de l'islam, alors celui-ci l'a certes refusé d'entrer au paradis. Et s'il meurt dans cette situation alors, son refuge sera le feu de l'enfer et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous en préserver. Il n'y a donc aucun chemin menant au paradis pour nous, si ce n'est la religion de l'islam avec laquelle est venu le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et il est bon de souligner ici que celui qui se cramponne à cette religion et qui prend la décision d'emprunter le droit chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala et de suivre le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam afin de cheminer sur cette voie qui mène au paradis. Il doit savoir qu'il rencontrera sur ce chemin des difficultés. Il doit savoir qu'il rencontrera sur ce chemin des obstacles. Il doit savoir qu'il rencontrera sur ce chemin des nuisances de la part des gens. Mais il se doit de faire preuve de patience. Il se doit d'endurer ces difficultés car la fin heureuse est pour la piété. Et les difficultés ne font qu'augmenter notamment à la fin des temps, lorsque les troubles se multiplient, lorsque les passions et les désirs se diversifient, celui qui cherche à se cramponner à sa religion, il est semblable à celui qui empoigne une braise en sa main. Voyez, celui qui prend une braise bien ardente dans sa main. Il serait difficile pour lui de patienter ainsi. Ceci demande une grande patience, de l'endurance, de la force. Telle est la situation de celui qui cherche à se cramponner à sa religion comme il se doit, à mettre en pratique la religion de l'islam, à mettre en pratique la sunna du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il subira inévitablement des difficultés, il rencontrera des obstacles sur ce chemin. Mais il doit patienter car il y a au bout de ce chemin le paradis bi'idhnillahi ta'ala. La vie sur terre, elle est temporaire. Ces épreuves et ces difficultés, elles ont une fin. Ou bien ici-bas, ou bien dans l'au-delà. Soit Allah subhanahu wa ta'ala t'accordera une issue ici-bas, et tu seras soulagé de ces difficultés. Soit, tu feras face à ces difficultés jusqu'à ton dernier souffle, puis tu rencontreras ton Seigneur, subhanahu wa ta'ala, qui sera satisfait de toi et qui te fera entrer dans un paradis éternel où tu seras soulagé de l'ensemble des difficultés que tu auras pu rencontrer dans ce bas monde. Toutes ces difficultés, tu les auras oubliées après un instant au paradis. Donc rappelle-toi de cela et rappelle-toi que la vie d'ici-bas n'est que temporaire et que tout ceci n'est qu'éphémère. Ce ne sont que des choses passagères que tu dois traverser. Puis au bout du chemin, tu rencontreras ton Seigneur qui te rétribuera pour tes œuvres. Si elles sont bonnes, ta rétribution sera bonne. Mais si elles sont mauvaises, la rétribution sera mauvaise et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous préserver et de nous pardonner nos manquements et nos péchés. Donc celui qui souhaite s'accrocher à cette religion, il doit faire preuve de patience, d'endurance. Contrairement à ceux qui suivent leurs désirs, ceux qui suivent les innovations, l'égarement, les péchés, les passions, ceux-ci ne demandent aucune fatigue. Car en général, les innovations, elles sont en concordance avec les désirs et les passions des gens. Donc ils ne s'y opposent pas. Ceux-ci ne demandent pas de fatigue, au contraire, ils prennent plaisir dans leurs innovations. Et ce, car le diable leur a embelli. Mais toutes ces choses-là sont refusées et mènent au feu de l'enfer, wal'iyadu billah. Ensuite, l'auteur, rahimahullah ta'ala, a mentionné un autre hadith et il a dit, et dans le hadith authentique, c'est-à-dire le hadith rapporté par l'imam al-Bukhari, rahimahullah ta'ala, d'après Ibn Abbas, radiyallahu ta'ala anhuma, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, trois hommes sont les plus détestés par Allah. L'auteur d'une profanation dans l'enceinte sacrée, celui qui désire propager en islam un précepte de la période pré-islamique, et celui qui réclame le sang d'un musulman injustement pour qu'il soit tué sans aucun droit. Donc on voit dans ce hadith qu'il y a trois catégories de personnes, qui sont les plus détestées par Allah subhanahu wa ta'ala. Et ce car Allah subhanahu wa ta'ala déteste les gens du mal, les gens de la mécréance, et il aime les gens du bien et les gens de la foi. La première catégorie de personnes, ce sont ceux qui profanent dans l'enceinte sacrée, c'est-à-dire qui dévient et s'écartent de l'obéissance à Allah pour les péchés. Et ce qui est visé par l'enceinte sacrée, c'est l'enceinte sacrée de la Mecque. Et certes, les péchés, quels qu'ils soient, ils sont interdits en tout lieu et en tout moment. Mais dans l'enceinte sacrée de la Mecque, ils sont plus graves et plus détestés par Allah subhanahu wa ta'ala. La deuxième catégorie de personnes, et c'est pour cela que l'auteur rahimahullah ta'ala a mentionné le hadith ici, c'est ceux qui désirent en islam un précepte de la période pré-islamique. La période pré-islamique, c'est-à-dire celle qui a précédé l'islam avant l'envoi de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Celui qui veut en islam une chose parmi les préceptes d'avant l'islam. Celui qui veut instaurer en islam un acte, une parole, une tradition, une coutume parmi ceux des gens de la période pré-islamique et qui ont été abolis par l'islam. Alors celui-ci, il fait partie des gens les plus détestés par Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah subhanahu wa ta'ala le déteste car il commet en cela une interdiction et s'oppose à la religion de l'islam. Et ceci nous démontre que pour éviter d'être détesté par Allah subhanahu wa ta'ala, il est obligatoire de s'écarter des préceptes pré-islamiques et de se conformer aux préceptes et aux législations de l'islam. Donc ceci nous démontre l'obligation d'entrer dans la religion de l'islam. Et la troisième catégorie de personnes, c'est celui qui réclame le sang d'un musulman injustement pour qu'il soit tué sans aucun droit. Celui qui fait cela, il est détesté par Allah subhanahu wa ta'ala, car il a porté atteinte à la vie sacrée d'une personne sans aucun droit. Donc celui qui cherche à porter atteinte à un musulman, ou alors à un mécréant dont le sang a été protégé par Allah subhanahu wa ta'ala, comme ceux liés à un pacte avec les musulmans, ou ceux qui sont entrés en sécurité sur les terres d'islam, à qui la sécurité a été accordée, il n'est pas permis de les tuer également. Et ceux qui font cela, comme le font notamment les Khawarij à notre époque, qu'ils s'affilient à Al-Qaïda ou à Daesh ou autres parmi les groupes terroristes et égarés, alors en cela ils font partie des gens les plus détestés par Allah subhanahu wa ta'ala. Et ils encourent un châtiment terrible de la part de notre Seigneur. Ensuite, l'auteur, rahimahullah ta'ala, a mentionné après ce hadith une parole de Cheikh al-Islam, Ibn Taymiyyah, rahimahullah ta'ala, qui a dit au sujet de la parole du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, un précepte de la période pré-islamique. Cela englobe tout précepte pré-islamique, qu'il soit général ou particulier. C'est-à-dire qu'il soit général, qu'il touche toute une société, ou toute une ville, ou tout un quartier, ou alors particulier, qu'il ne touche qu'une personne de manière individuelle. Il dit, rahimahullah, c'est-à-dire qu'on le retrouve chez certains individus en dehors d'autres. Tout ceci est compris par la parole du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, un précepte de la période pré-islamique. Ensuite, il dit qu'ils proviennent des préceptes des gens du livre, des idolâtres ou autres, parmi tous ceux qui s'opposent à ceux avec quoi sont venus les messagers, alayhimus salatu wassalam. Donc ceci
et l'explication des préceptes de la période pré-islamique, des préceptes de la Jahiliya, tout ce sur quoi étaient les mécréants, quels qu'ils soient, avant l'envoi de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Que ce soit les préceptes des gens du livre, parmi les juifs et les chrétiens, ou que ce soit les préceptes des idolâtres, parmi les adorateurs du feu, ou les polythéistes de Quraysh ou autres. Tous ces préceptes-là, ils sont rejetés. Et l'obligation pour la personne est d'adopter les préceptes et les principes de l'islam, et de suivre la législation de l'islam. Et tout ce qui s'oppose à l'islam est rejeté. Ceci nous démontre donc l'obligation pour la personne d'entrer dans cette noble religion. Ensuite, l'auteur, rahimahullah ta'ala, a dit, et dans l'authentique, Hudayfa radiyallahu ta'ala anhu a dit, ô vous les lecteurs, tenez-vous sur la droiture, car si vous vous tenez sur la droiture, vous prendrez une longue avance. Toutefois, si vous vacillez à droite et à gauche, vous vous égarerez d'un égarement lointain. Et Muhammad ibn Waddah, rahimahullah ta'ala, a dit que Hudayfa radiyallahu ta'ala anhu entrait à la mosquée et se tenait debout devant les cercles d'apprentissage, puis il disait cette parole. Donc Hudayfa radiyallahu ta'ala anhu, il entrait à la mosquée et se tenait debout devant les cercles d'enseignement, c'est-à-dire devant ceux qui apprenaient le Coran à la mosquée. Et il leur ordonnait de se tenir sur la droiture, c'est-à-dire de se tenir sur la religion de l'islam et sur la sunna de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, le chemin droit comme on l'a vu. Et il leur dit, car si vous vous tenez sur la droiture, vous prendrez une longue avance. Celui qui se tient droit sur le Coran et qui le met en pratique, alors il n'y a pas de doute qu'il fera partie de ceux qui sont en avant. Car l'objectif de l'apprentissage du Coran, c'est de s'y cramponner et de le mettre en pratique. Quant à celui qui lit le Coran, qui le mémorise, mais qui ne se pare pas des comportements légiférés dans le Coran, qui ne se soumet pas aux ordres mentionné dans le Coran, qui ne délaisse pas les interdits mentionnés dans le Coran, alors celui-ci, il n'est pas sur la droiture, il n'est pas sur le droit chemin, car l'objectif du Coran, c'est de le mettre en pratique. Celui qui suit les enseignements du Coran, il est sur le droit chemin, et il obtiendra le salut bi-idhnillahi ta'ala. Quant à celui qui s'en détourne et s'y oppose, alors il encourt la perdition et l'égarement. On voit donc à travers cela que celui qui s'oppose au Coran et qui ne s'y conforme pas, il s'égare. Et ceci est également une preuve de l'obligation d'entrer en islam et de suivre le Coran, qui est le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala, et la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et ce récit est un rappel de Hudayfa radiyallahu ta'ala anhu à tous ceux qui apprennent le Coran, à ne pas se contenter d'apprendre ces mots, comment les prononcer, comment les réciter, comment embellir sa voix, sans se pencher vers le sens de ces versets, sans les méditer, sans chercher à les mettre en pratique, sans chercher à se soumettre aux enseignements du Coran, sans chercher à se parer et à adopter les comportements légiférés dans le Coran, sans chercher à se soumettre à ses ordres, délaisser ses interdits, ainsi de suite. Celui qui délaisse cela, même s'il a mémorisé le Coran et qu'il le récite de la meilleure manière, il ne fait pas partie des gens du Coran. Quant à celui qui se pare des comportements du Coran, qui se soumet à ses ordres, délaisse ses interdits, alors il fait partie des gens du Coran, même si c'est une personne parmi les gens de la masse qui ne sait pas lire. Il fait partie des gens du Coran car il se soumet à ses enseignements. Ce sont eux les gens du Coran. Ce sont ceux qui suivent la voie du Coran, qui se soumettent à ses enseignements, qui se soumettent à ses ordres, qui délaissent ses interdits. Ce ne sont pas simplement ceux qui le mémorisent, qui le récitent d'une belle manière, mais qui s'opposent à ces enseignements dans leurs paroles et leurs actes, wal-iyadu billah. Ensuite, l'auteur, rahimahullah ta'ala, a mentionné un autre récit rapporté par Muhammad ibn Waddah, rahimahullah ta'ala. Donc Muhammad ibn Waddah, il fait partie des savants qui ont écrit dans l'exposé des innovations. Il a un livre écrit à ce sujet qui s'appelle « Les innovations et l'interdiction de celles-ci ». Il a donc dit, Sofyan ibn Uyayna nous a rapporté, d'après Mujalid, d'après Al-Sha'bi, d'après Masruq, qui a dit, Abdullah, c'est-à-dire Ibn Mas'ud, radiyallahu ta'ala anhu, a dit, il n'y a pas une année sans que la suivante soit pire que la précédente. Je ne parle pas d'une année plus pluvieuse qu'une autre, ni d'une année plus fertile qu'une autre, ni d'un dirigeant meilleur qu'un autre, mais je parle de la disparition de vos savants et des meilleurs parmi vous. Viendront ensuite des gens
qui évaluent les choses selon leurs opinions, l'islam s'effondrera alors et s'ébréchera. Donc dans ce récit, Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu nous informe que les gens ne cesseront de s'affaiblir et que la situation ne cessera de s'empirer année après année. Et ceci est semblable à ce qui est rapporté par l'imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala dans le hadith de Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu. Lorsque les gens sont venus à lui pour se plaindre d'Al-Hajjaj et de ce qu'il subissait comme injustice, Anas radiyallahu ta'ala anhu leur a alors dit: patientez, car certes ne viendra pas une année sans que celle qui la suit soit pire que la précédente. J'ai entendu cela de votre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc plus le temps avance, plus le mal s'amplifie, plus la situation s'aggrave, plus le bien diminue. Donc, ceci nous appelle à prendre garde et à s'écarter des troubles, à s'écarter du mal, à s'écarter des péchés, à s'écarter de tout ce qui nous éloigne du droit chemin d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et Abdullah ibn Mas'ud, radiyallahu ta'ala anhu, il nous a indiqué ici une chose qui nous démontre que plus le temps avance, plus les choses s'empirent, en nous donnant l'exemple de la mort des savants et des gens de bien. Il nous explique que viendront après eux des gens qui prennent pour arbitre leurs raisons et leurs opinions, et ce car ils n'ont pas de science. Ils égarent donc la communauté et leur font encourir la perdition en raison de leur ignorance et de leur inaptitude en religion, du fait qu'ils ne sont pas capables de revenir au livre d'Allah, subhanahu wa ta'ala, et à la sunna de son messager, sallallahu alayhi wa sallam. Comme on le retrouve dans le hadith authentique, rapporté par les imams al-Bukhari et Muslim, rahimahumallahu ta'ala, dans lequel le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit: certes, Allah ne fait pas disparaître cette science en la retirant de la poitrine des gens, mais il l'a fait disparaître en faisant disparaître les savants, jusqu'à ce qu'il ne reste plus un seul savant, et que les gens prennent à leur tête des ignorants, qui seront interrogés et émettront des avis juridiques sans science. Ils s'égareront alors et égareront les gens. Celui qui médite sur ce hadith et sur le récit qui vient de précéder, il verra un des signes parmi les signes de la prophétie de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Telle est la situation que l'on vit aujourd'hui dans beaucoup de pays. Les savants sont peu nombreux aujourd'hui. Et beaucoup de gens dans le monde ont délaissé le suivi des savants. Ils ne leur accordent aucune considération. Mais ils accordent de la considération à des gens ignorants. Ils accordent de la considération à des gens qui ne sont pas connus pour avoir appris la science, qui ne sont pas connus pour avoir voyagé pour la science, qui ne sont pas connus pour avoir appris l'islam auprès des gens de science. Ils les prennent pour modèles et comme référence, alors que ceux-là sont bien souvent des égarés, loin du droit chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala, et qu'ils les égarent ainsi de la voie de la droiture. Et on parle ici de ceux qui suivent des gens qui prétendent être des prédicateurs à l'islam. On ne parle même pas de ceux qui ont pris pour référence des gens pervers ou ignorants parmi les célébrités ou autres, ou les influenceurs ou je ne sais quoi, et qui s'égarent ainsi du droit chemin d'Allah. On parle de ceux qui pensent être sur le bien et apprendre la science, et qui prennent comme référence des ignorants, qui s'écartent des savants, qui prennent pour référence des gens pervers, des gens qui commettent des grands péchés publiquement, des gens qui appellent à une voie autre que la voie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, des gens qui appellent à des choses qui s'opposent à la voix du prophète sallallahu alayhi wa sallam, des gens qui appellent à s'opposer au gouverneur des musulmans, et ainsi de suite parmi les égarements. Donc la présence des savants, c'est un signe de bien pour la communauté. Et le fait de se cramponner aux conseils des savants, aux recommandations des savants, c'est un signe de bien également pour la communauté. Quant à la perte des savants et au délaissement du retour aux savants, alors ceci est un signe de mal pour la communauté. Et il n'y a pas de doute qu'à notre époque, nombre de personnes méprisent les savants, méprise le retour aux savants, méprise les conseils des savants, méprise les recommandations des savants. Certains parlent même sur leur honneur, dénigrent les savants en disant: celui-ci ne comprend pas ce qui se passe autour de lui, celui-ci a un mauvais entourage, celui-ci est berné par son entourage, celui-ci est aveugle, ses yeux sont un tel et un tel, et autres paroles semblables. Combien sont ceux qui dénigrent les savants de cette manière? Ou encore, ceux-là sont au service des gouverneurs, ceux-là ne peuvent pas dire ce qu'ils veulent, il dit cela pour satisfaire son gouverneur, autre parole semblable.
Wal'iyadu billah. Et tout ceci fait partie des signes de la venue de l'heure et des signes de l'affaiblissement de l'islam. Wallahu al-musta'an. Donc le musulman, il doit être conscient de cela. Donner aux savants leur juste valeur. Car donner aux savants leur juste valeur, c'est une manière de préserver cette religion et de préserver la communauté de l'égarement. On a donc terminé ce chapitre et on verra dans le prochain cours, la semaine prochaine, inshallah ta'ala, le chapitre suivant dans lequel l'auteur, rahimahullah ta'ala, nous a exposé certains textes au sujet de l'explication de ce qu'est l'islam. On va donc s'arrêter là pour aujourd'hui. Wa sallallahu wa sallama wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in wa alhamdulillahi rabbil alamin wa jazakumullahu khayra.